affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Une citation de Charles de Gaulle. Si Pétain avait rejoint Alger en novembre 1942, qu'est-ce que je serais devenu ? Question vertigineuse. Soudain, les acquis s'envolent et le grand général inflexible devient le jouet des caprices du destin. Jean-Marie Rouard s'empare de cette fiction historique avec un plaisir non dissimulé. Il en tire un roman écrit d'une plume alerte qui entraîne le lecteur de Londres à Samarcande dans une tentative de sortie de crise désespérée. Ils voyagèrent vers des pays perdus, c'est aux éditions Albin Michel. Voici une dérive peuplée de personnages fantasques et de saillies réjouissantes. Bonjour Jean-Marie Rouard.
Bonjour.
Alors vous aimez particulièrement les grands hommes, vous êtes notamment attaqué à Napoléon en 2012. Pourquoi De Gaulle maintenant, aujourd'hui, peut-être que la stature du général était telle que vous avez attendu un certain temps ?
Alors j'aime les grands hommes parce que c'est un peu démodé. Hein. Je sens que ça, on voit un peu mon âge et l'académie. Alors, j'adore les grands hommes. J'adore Richelieu, Napoléon, le cardinal de Bernis auquel j'ai consacré une biographie, le duc de Morny. Mais cette période de 1940-1945, c'est une période qui m'intéresse parce que en fait elle obnubile la conscience collective. Il y a deux périodes très importantes, c'est la Révolution, mais maintenant, comme les connaissances historiques disparaissent, on se désintéresse un peu de la Révolution, et tandis qu'on se fixe avec toutes les passions, et à la fois les documents et les documents mêlés de passions, vers cette époque. Pourquoi ? Parce que, d'abord, elle est très proche, nous avons vu beaucoup de gens en souffrir, parce qu'il y a eu des résistants extraordinaires qui sont battus, qui sont morts, notamment les lycéens du lycée Victor Duruy, et puis Jean Moulin. Et puis voilà, il faut aller au Mont Valérien pour voir ce sacrifice presque christique. Il y a quelque chose, moi je crois que c'est le fond de la France qui s'est retrouvé dans ce dévouement, dans la résistance, dans le sacrifice. Donc il y a cet aspect. Et puis bien entendu, il y a à la fois De Gaulle et Pétain, qui sont maintenant vus d'une manière très manichéenne. Voilà, très manichéenne.
Comme un duo.
Oui, mais enfin, d'une certaine façon, c'est pas un duo, parce qu'en fait, ils ont été extrêmement proches, et c'est ce que je dis dans mon livre, bizarrement, il y avait un attachement de De Gaulle pour Pétain. Et un attachement qui va se manifester d'ailleurs, parce que il va essayer de le maintenir en Suisse à la Libération. Il ne voulait pas le juger. Quand il va être jugé, malgré lui, parce qu'il ne fonctionnait pas, il voulait qu'il aille se reposer dans sa maison de Villeneuve-Loubet, dans le Midi. Et là, il va le gracier. Et il va lui faire déposer sur sa tombe, le 11 novembre 68, une gerbe à l'Île-Dieu. Donc, vous voyez, il y a des liens qui sont beaucoup plus complexes. Et puis, alors, ce qui est très complexe, c'est toutes les nuances qu'il y a à Londres et à Vichy. À Londres, beaucoup de gens se détestent. Ils détestent De Gaulle. Par exemple, Raymond Aron passe son temps à écrire que De Gaulle est un futur dictateur. Ainsi que Labarthe. Et puis, dans la résistance elle-même, eh bien, il faut reconnaître qu'il y a des divisions terribles. Notamment celles qui vont s'opposer aux communistes, et c'est toute l'affaire Jean Moulin, c'est toutes les affaires de résistance un peu troubles, où on va voir que... Et puis, il y a encore quelque chose de plus compliqué, c'est Vichy, puisque à Vichy, il y a deux partis. Il y a un parti collaborateur, c'est-à-dire qui accepte l'armistice, et de collaborer, non pas militairement, mais collaborer avec les Allemands pour avoir des avantages, les faire libérer des prisonniers. Et puis, il y a les collaborationnistes, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment pour la victoire de l'Allemagne et qui sont comme Benoît Méchain ou comme Laval, qui veulent vraiment la victoire de Laval. Et Pétain est à mon sens, hein, mais ça peut se discuter, son erreur, c'est de ne pas avoir suivi mon conseil. C'est de ne pas avoir rejoint Alger le 11 novembre 1942, comme le lui demandait le président Roosevelt. Parce qu'à ce moment-là, il aurait eu une bonne image. Voilà. Sauf, il y a une tache noire, indélébile, sur Pétain. Très tôt, c'est le décret sur les Juifs d'octobre 40.
Et là, avec cette question du départ en Algérie de Pétain, vous décrochez de l'histoire pour partir dans l'imaginaire. Comment est-ce que vous intégrez l'histoire dans votre travail ? Est-ce que vous appuyez sur des archives ou est-ce que tout de suite vous partez dans le champ de l'inspiration ?
Non, pas seul. Il y a de l'inspiration, j'espère, et de la fantaisie, j'espère aussi. J'ai voulu faire un roman à la fois amusant et qui rende un peu intelligent. Et il se trouve que j'avais écrit il y a longtemps, en 1983, un livre qui s'appelait « Avant-guerre » et qui avait eu le prix Renaudot et qui était un roman où je m'inspirais de beaucoup de résistants et de collaborateurs, notamment de Pierre Puche. Et à ce moment-là, j'avais vu énormément de résistants. J'ai vu Claude Bourdet, j'ai vu René Andrieux de l'Humanité. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens et j'ai surtout vu François Mitterrand. Parce qu'il se trouve que François Mitterrand m'avait... Nous n'étions pas du même bord politique, mais m'aimait bien parce qu'il aimait bien mes livres. Et il m'invitait régulièrement. Il m'avait invité à Château-Chinon. Puis, tous les mois, il m'invitait dans un restaurant avec quelques amis. Et nous ne parlions que de ça, que de cette question de la résistance, où il avait été vichyso-résistant. C'est-à-dire qu'il avait été favorable au maréchal Pétain, favorable à l'armistice, et en même temps résistant, parce qu'il considérait, il s'est d'ailleurs rallié à De Gaulle. De Gaulle l'a toujours détesté, mais enfin, c'est un autre problème. Mais il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de résistants qui, disons, avaient des contacts avec Vichy, des grands résistants. Je parle d'Henri Freinet. Henri Freinet a été un homme qui a beaucoup parlé avec les gens de Vichy tout en étant un très grand résistant.
Et alors, vous vous arrêtez assez longtemps à Londres, au milieu de tous ces Français qui entourent le général de Gaulle. Et c'est une société, finalement, presque un peu décadente, très contrastée, pleine de personnalités étonnantes que vous dépeignez.
Oui, parce que je montre qu'au fond, les gens qui sont partis pour Londres, il y avait des gens extrêmement stricts, comme le général de Gaulle, qui était vraiment imperturbable et pas accessible aux passions communes. Mademoiselle de Méribel, qui était une sorte de sainte. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui étaient des noceurs. Enfin, mais ça ne les empêchait pas d'être des grands résistants. Mais l'amiral Muselier, qui a cumulé les maîtresses. Il y avait également Joseph Kessel, qui avait toujours beaucoup de maîtresses et qui a plus fumé de l'opium, comme l'amiral Muselier. Et tous ces gens, avec la société anglaise, eh bien, étaient stimulés sensuellement. Parce que vous savez, quand vous allez mourir, quand vous avez beaucoup de chance de mourir, eh bien, quand vous avez des bombardements terribles, vous avez une instabilité, eh bien, c'est pas très bon pour, disons... la morale. La morale se relâche un petit peu.
Les interdits moraux.
Voilà. Et donc, c'est le cas de toutes les périodes, vous savez, troubles. Je crois que c'est le cas de la Révolution. Et c'est une période, en effet. Alors, et comme c'est un roman, c'est vrai que j'ai suivi l'exemple de Gracq qui disait il faut, dans un roman, il faut surtout qu'il y ait une femme fatale. Là, j'ai mis quelques femmes fatales.
Il y en a plusieurs, là.
Notamment une espionne russe.
Qui est assez et mystérieuse.
Très belle, oui. Que Staline met dans les pattes du général de Gaulle, parce qu'évidemment, il aimerait bien qu'elle arrive à le séduire.
Émouvoir voilà. La statue.
Voilà. Et d'ailleurs, tout le monde aimerait bien, autour de l'entourage du général de Gaulle, qu'il succombe. Parce que je crois que c'est Labarthe qui dit « Enfin, il deviendrait humain ».
Et le fait de parler de Londres aussi, est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de parler aussi de la France, avec un point de vue un peu extérieur, de regarder la France. Qu'est-ce que la France que cherche à incarner, justement, le général de Gaulle ?
Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai écrit un jour un livre qui s'appelle « Adieu à la France qui s'en va ». C'est que la France me passionne. La France me passionne. C'est absolument une réflexion qui est sans fin. Parce que, comme disait très bien un autre de mes héros, Napoléon, si on veut comprendre la France, il faut lire un seul livre. Ou bien il faut en lire 10 000. C'est-à-dire, voyez la complexité française. Et donc, je trouve que je me sens très proche de tout ce qui s'est passé en France, y compris les horreurs, parce qu'on ne peut pas échapper. Il nous faut assumer à la fois les dragonnades horribles de Louis XIV contre les protestants, il nous faut assumer l'horreur des déportations du Veldiv, l'horreur... Enfin, il y a énormément d'horreurs. Le chevalier de la Barre qui est exécuté pour blasphème. Enfin, toute notre histoire est une histoire vraiment avec beaucoup de tragédies qu'il faut assumer. Mais je trouve que la France est passionnante parce qu'il faut la voir dans ce qu'elle a de meilleur. Moi, ce qui rachète tout ça, c'est d'une certaine façon Jean Moulin, c'est Pierre Brossolette, c'est beaucoup de ces hommes qui se sont sacrifiés. Et c'est d'une certaine façon le général de Gaulle, que je critique parce que je trouve qu'il est très intransigeant. Et d'ailleurs, il va le montrer plus tard avec les Harkis. Il a été absolument d'une intransigeance monstrueuse. Mais c'est un homme qui a cet idéal, qui est une sorte de mystique de la France. Et j'aime bien les mystiques. J'avais beaucoup parlé des moines de Tibérine et de leur courage aussi, de martyrs. Voilà, ce sont ces gens-là qui me font aimer la France. J'essaie de voir la France à travers les meilleurs. Et ce qu'elle est extraordinaire, c'est qu'en permanence, elle a les meilleurs et les pires.
Et il y a un personnage qui parle beaucoup de la France et des Français, c'est le fameux Winston, que vous appelez ainsi dans votre livre, et qui ne se prive pas de commentaires. On sent que vous avez particulièrement soigné ses répliques.
Oui, parce que certaines sont vraies et certaines sont fausses. Hein. Je mêle les deux. Non, je trouve évidemment Winston comme personne plus sympathique que De Gaulle. De Gaulle n'est pas sympathique. Il est génial, mais il n'est pas sympathique. Et d'ailleurs, Pétain est plus sympathique aussi. Ils sont tous plus sympathiques que De Gaulle. Mais si vous voulez, Winston, c'est un personnage extraordinaire, mais qui, dans son action, a commis des choses atroces. Enfin, bon, c'est un homme qui, comme beaucoup d'Anglais, enfin, beaucoup de gouvernements anglais, est à la fois un peu perfide et hypocrite, et en même temps, qui n'hésite pas à faire assassiner les gens qu'il gêne. C'est le cas notamment du général Sierkowski, qui représente la Pologne, le gouvernement polonais, que le gouvernement anglais va faire assassiner par Philby, en plus, l'espion soviétique, à Gibraltar, parce qu'il protestait contre le massacre de Katyn, vous savez, perpétré par Staline. Et les Alliés ne voulaient pas se désolidariser de Staline. Voilà. Donc, cet homme était trop. C'était l'homme qui en savait trop, et on l'a fait exécuter.
Et un autre aspect qui vous intéresse, c'est la figure du vaincu, de celui qui connaît un échec. Et à travers cette fiction historique, vous prenez De Gaulle, non plus comme le vainqueur, mais comme le vaincu. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La noblesse des vaincus ». Et finalement, vous avez dit « De Gaulle, il ferait un excellent vaincu ».
Oui, mais vous savez, je crois que quand il y a une grande qualité humaine, une grande qualité spirituelle et une grande culture... Peu importe qu'on soit vainqueur ou vaincu. Voilà, je vais peut-être vous choquer. Mais vous savez, moi, j'aime bien la Légion. La Légion étrangère, il fête l'anniversaire de Cameron. Cameron, c'est une défaite. Et c'est pour ça que j'aime la Légion. Eh bien, non, parce que pour moi, ce qui compte, ce sont les valeurs artistiques et spirituelles. Vous savez, on peut dire que les malheureux écrivains qui ont vécu au XIXe siècle et pas mal de peintres ont vécu dans la misère, incompris, voilà. Ça n'empêche pas, ce sont des vaincus socialement. Mais artistiquement, spirituellement, regardez un Van Gogh. Van Gogh est magnifique, et pourtant c'est un vaincu. Donc, je ne veux pas rentrer dans les critères sociaux. Je trouve que ces critères sociaux sont, ne rendent pas compte de la richesse humaine. Voilà. Et puis nous vivons tous avec l'image dans notre cœur d'un grand vaincu, c'est Jésus. C'est le crucifié. Donc, si vous voulez, je crois que ça nous a donné, heureusement, pour les meilleurs d'entre nous, pour ceux qui n'ont pas cette espèce de religion de la réussite, eh bien, ça nous a donné une image qu'au fond, on pouvait échouer, on pouvait être crucifié, mais laisser un très beau message.
Il y a de grands moments de doute qui donnent de l'épaisseur au personnage et même un moment où vous montrez De Gaulle au bord du suicide, en pleine mer.
Mais ça, c'est pas faux, parce que c'est au moment de l'expédition de Madagascar, De Gaulle avait trouvé la solution pour finalement rompre un peu avec les Anglais, parce qu'il était un peu lourd, et puis qui l'embêtait, il l'empêchait de parler à la radio. Enfin bon. Et donc, il avait décidé de faire organiser avec les Anglais l'expédition à Madagascar. Et puis, tout a foiré. Il y avait la brume, il n'avait pas prévu la brume. Le gouverneur général Boisson a tiré sur les troupes donc de la Force française libre. Ça n'a pas marché. Et De Gaulle voulait installer à Dakar la France libre. Et en même temps, à Dakar, il y avait tout le trésor de la France, le trésor de la Belgique, donc de la banque, des banques nationales. Et donc, ça leur aurait permis d'avoir des moyens. Et là, il y a eu un moment épouvantable, qui est raconté d'ailleurs par le général Spears, où vraiment, il a pensé au suicide. Il a pensé au suicide. Mais enfin, vous savez, c'est un cyclothymique. C'est un dépressif. Il est comme les grands artistes. Tantôt, tout va bien, puis tantôt, et on le voit bien, d'ailleurs, dans les mémoires du capitaine Guy, son officier d'ordonnance en 45. Un jour sur deux, il était complètement au fond du trou, si je puis dire. Il est désespéré, puis ça repart. Voilà. Mais ça, je crois que ça fait partie de la systole et de la diastole des grands artistes.
Et pourrions-nous parler des femmes qui sont très nombreuses dans ce roman et de l'amour, parce qu'on a l'impression que ce sont des amours assez égoïstes d'une certaine façon.
Oui, moi je trouve que l'amour déjà, dans son terme, dans sa notion, c'est pas égoïste. L'amour, c'est d'abord, ça montre l'amour de la vie, les gens qui aiment l'amour. Alors, évidemment, comme romancier, je me suis donné beaucoup de liberté, parce que j'aime beaucoup l'amour, j'aime beaucoup cette espèce. Et puis j'ai beaucoup d'affection, de tendresse et de respect pour les femmes. Je ne veux pas avoir l'air d'être MeToo aujourd'hui, nous sommes non. Non, mais j'ai toujours, vous savez, j'ai défendu les prostituées, j'ai toujours. Et j'adore la phrase de Vigny qui dit : après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Voilà. Et je trouve que les hommes se sont toujours très mal comportés avec les femmes. Il continue d'ailleurs, et moi-même aussi. Donc, moi-même, je considère dire que quelquefois, bon, eh bien, on n'a pas été ce qu'il fallait. Bref, je ne veux pas dire que les femmes sont des saintes, mais enfin, donc, je me suis amusé dans ce livre à les montrer un peu volages. C'est vrai qu'elles sont volages, mais en même temps, je crois que ça n'empêche pas qu'elles fassent le bonheur de beaucoup de mes héros.
Et il y a une femme assez extraordinaire parmi les autres, mais sans doute un peu plus âgée que les autres, c'est cette princesse polonaise qui a un don de communication avec les forces occultes. Vous nous avez dit que vous aimiez la mystique et ce côté un peu surnaturel, c'était important de le mêler à l'univers très, très raisonnable d'un De Gaulle, par exemple, qui va la consulter quand même.
Oui. Mais vous savez, François Mitterrand consultait tout le temps les voyants et moi-même, j'en ai consulté pendant très longtemps. Et donc, c'est une. Je crois que. Moi, j'aime pas le roman réaliste. J'aime pas le roman. D'ailleurs, j'aime pas les gens réalistes. J'aime les artistes. Et les artistes, c'est les gens qui rajoutent un peu de rêve à la réalité. Et dans ce rêve, il y a tout ce qu'on ne connaît pas. Il y a tout ce monde invraisemblable qui est à côté d'une autre et dont nous avons quelquefois des échos. Vous savez, il y a des intuitions extraordinaires. Il y a quand on prie Saint-Antoine de Padoue, qu'on retrouve ses clés. Mais enfin, il y a mille choses mystérieuses. Quelquefois, j'ai l'impression que les gens me parlent, ma mère me parle, Jean d'Ormesson, avec qui j'ai parfois des conversations, bien qu'il soit mort. Vous voyez, donc, je crois énormément au surnaturel. Je crois qu'il y a une autre vie. Et donc, j'ai voulu l'exprimer dans ce livre, par cette femme qui est une voyante et qui voit l'avenir et qui voit des choses horribles dans l'avenir, justement. Et ça m'a permis de rester dans ce roman entre deux temps, le passé, le présent, l'avenir. Voilà. Et sans en abuser, parce que sinon, ça, il ne faut pas non plus déréaliser un roman. Un roman, on a besoin de suivre un fil et de s'y tenir.
Et un détail m'a frappé également, ce sont les chiens, parce que vous prenez toujours soin de noter quelle est la race du chien des personnages. Ça peut être un Saint-Bernard pour un sauveteur d'assez simples conditions, voilà, d'une duchesse un peu perdue. Là, en l'occurrence, la voyante a un Yorkshire. Vous y avez fait attention à ces détails-là ?
Mais j'essaie de... Quand je décris un personnage, je ne suis pas du nouveau roman où on abandonnait les personnages. Non, moi, je crois que c'est très important. Je crois qu'un roman, ce sont des personnages et les circonstances. Voilà. Et donc, je sais dessiner ce personnage qui soit vrai, qui soit dans tous les aspects qu'il peut avoir. Je veux dire, et cette voyante, j'avais besoin de mettre ce chien. Et voilà, c'est comme ça. Comme après, il y a un Saint-Bernard qui est très attaché à Kessel et qui ressemble un peu à Joseph Kessel. Il a un peu les paupières lourdes. Voilà. Non, je pense que c'est très important, vous savez, dans un roman. Et puis, il y a un roman merveilleux qui est Anna Karénine. Et dans Anna Karénine, vous avez un chien. C'est un chien qui pense. Voilà, là, pour l'instant, les chiens ne pensent pas.
Vous avez aussi décrit cette équipée en bateau, sans dévoiler toute l'intrigue du livre. À un moment donné, le général de Gaulle part avec ses fidèles et un drôle d'équipage sur un bateau rouillé et repeint par les Anglais. Cette figure du bateau, c'est un peu une métaphore. Qu'est-ce que c'est, ce bateau ?
Vous savez, j'ai beau tenter d'être original, en même temps, il y a derrière moi toute une histoire littéraire que j'adore. Et il y a quand même l'Odyssée, il y a quand même l'Énéide de Virgile, il y a quand même Moby Dick. Voilà, je crois que un roman qui se veut un peu initiatique, c'est-à-dire avec un moment comme dans la maçonnerie, il passe par l'expérience de l'eau, l'expérience du feu, l'expérience de l'air. Donc, c'est ce caractère initiatique, ça me plaît, ça enrichit le roman. Vous savez, je trouve qu'un roman... Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître prétentieux, parce que je ne suis pas à son niveau, mais Dante disait, au fond, dans un bon livre, il y a trois niveaux. Il y a le niveau littéral. Et ce livre, on doit se lire. Voilà. Ensuite, il y a le niveau symbolique. Et enfin, on peut y trouver un niveau métaphysique. Voilà, eh bien... Moi, je ne sais pas si je suis arrivé jusque-là, hein, mais chez Dante, c'est vrai que ça se voit, il y a plusieurs lectures. Et j'essaie, moi, d'enrichir ma lecture de lecteur sans l'ennuyer, parce que non, je trouve que le défaut de la littérature française aujourd'hui, c'est qu'elle est terriblement ennuyeuse. Elle est, comme disait Jean-François Revel, elle est devenue un peu allemande, c'est-à-dire elle est didactique, elle est sérieuse. Voilà, et moi... Sur le modèle de Jean d'Ormesson, le livre est dédié, et sur le modèle de Sacha Guitry, de beaucoup d'écrivains qui ont essayé de faire passer l'esprit français dans le roman.
Et on sent que cette question de l'écriture est souvent présente dans ce livre, notamment à travers le personnage de Stanislas, qui est aide-de-camp du général de Gaulle, qui lui a des rêves de devenir écrivain, qui va consulter Kessel pour savoir comment faire un bon livre. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce personnage? Parce que finalement, à la fin, on se demande si ce n'est pas lui qui aurait écrit ce livre.
Alors, oui, vous savez, moi, je m'identifie à tous les écrivains. Et pendant très longtemps, avant de devenir un écrivain publié, j'étais un écrivain rejeté. Mon premier livre, quand j'avais 20 ans, a été refusé par 13 éditeurs. Et j'ai toujours vécu dans l'angoisse de la candidature à l'édition. C'est-à-dire, j'ai été publié quand j'avais 30 ans, mais ça m'est resté comme un traumatisme, si vous voulez. Je pense très souvent à tous les gens qui veulent écrire, qui ne sont pas publiés. C'est quelque chose d'atroce, ce que j'ai vécu comme quelque chose d'atroce. Parce que c'est la vérité. Pour un écrivain, quand il n'a rêvé que de ça, être publié, c'est une véritable naissance. Voilà. Donc, j'ai voulu montrer chez ce jeune homme, en effet, une partie de mes angoisses, qui sont toujours là. Je veux dire, parce qu'on croit, oui, on se dit, ah ben, après, je ne sais plus combien j'ai écrit, 25, 30, eh bien, après, on pourrait se dire, ben, il n'y a plus d'angoisse. Mais non, pas du tout. C'est comme en amour, quand on commence, c'est toujours la première fois.
Et vous avez quelques lignes également sur l'Académie française, dont vous êtes membre. Et il y a une sorte de rapprochement entre le sort d'un académicien et puis celui d'un résistant pris dans la tourmente de l'histoire et qui n'est peut-être pas toujours à la hauteur, mais finalement, la cause le dépasse.
C'est vrai. C'est une phrase du général de Gaulle ça, qui disait les écrivains médiocres dont certains sont à l'Académie française, ils sont comme moi. Ils portent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est vrai, parce que disons, cette hiérarchie des écrivains, les très grands, les moyens, les médiocres. Je trouve ça absurde. Ce qui est intéressant, c'est l'intention. L'intention. Et puis, si on fait les choses très bien, tant mieux. Et si on fait les choses moins bien, après tout, bon, il faut, on ne sait jamais dans quelle catégorie on est. Donc, l'important, c'est d'avoir une belle intention. Et puis, ça, de toute façon, c'est très variable, parce qu'il y a des écrivains qui sont redécouverts, vous voyez, d'autres qui sont oubliés. Regardez Les dieux ont soif d'Anatole France, plus personne ne le lit, c'est un chef-d'œuvre. Paul-Jean Toulet, qui est un de nos plus grands poètes, personne ne le lit. Voilà. Et puis, en revanche, Romain Gary, qui était complètement méprisé, rejeté, maintenant, c'est devenu un auteur très à la mode.
Vous citez dans ce livre de nombreux auteurs, de nombreux ouvrages. Vous constituez comme ça une sorte de bibliothèque idéale ou c'est ce qui vous vient à l'esprit selon tel ou tel personnage ?
Écoutez, j'essaie de ne pas mentir ni à moi-même ni au lecteur. Je suis pétri de littérature. Voilà. Moi, j'aime, c'est ce que j'aime. Et attention, pas, je ne suis pas pétri de livres, de littérature. Ce qui est une... Aujourd'hui, on tend à faire la confusion, ça n'a rien à voir.
Quelle est la différence ?
Eh bien, la différence, c'est que un livre, ça peut être un produit commercial, qui d'ailleurs pas forcément désagréable à lire, ni mal écrit. Mais une fois que vous l'avez lu, ça s'arrête. Voilà. Vous avez un petit souvenir. Est-ce que la littérature, ça vous amène à une conversion ? Ça vous amène subitement à dire, mais depuis que j'ai lu La Chartreuse de Parme, depuis que j'ai lu La Guerre et Paix ou Le Crime et Châtiment, ma vie change. Je ne veux plus lire que ce type de livres qui appartiennent à la littérature. Parce que c'est une conversion spirituelle. C'est ce lien mystérieux entre l'art et la spiritualité. Subitement, ces livres vous apprennent à vivre, à aimer, à espérer. Ils changent complètement votre vie. C'est très différent. Et vous voyez, moi, ce n'est pas le succès que je recherche. J'essaie d'appartenir, si autant que je le puisse, à cette, disons, chevalerie de la littérature.
Eh bien, grand merci Jean-Marie Rouard. Je rappelle le titre de votre livre qui, je l'espère, va changer certaines vies. Ils voyagèrent vers des pays perdus. C'est un roman aux éditions Albin Michel. À bientôt.
Merci. Thank you.